Alors pour cette deuxième partie du Radio Barque, on revient un petit peu quand même sur le tourisme et un aspect un peu désordonné du tourisme dans notre région, tel que tu l'as évoqué tout à l'heure, Michel, sous forme d'une pléthore de panneaux.
Oui, et alors sur une distance très courte, hein, 4 kilomètres, puisque tout récemment, 4 panneaux... Enfin, 4 panneaux, c'est le début de ma chronique, hein. 4 panneaux ont été installés sur 4 kilomètres par la nouvelle région Occitanie. Pyrénées,
sur l'autoroute.
Méditerranée, sur l'autoroute, oui, quand on rentre, quand on prend le sens, quand on prend le sens Catalogne, fait Espagne.
Quand on vient d'Espagne, en
d'Espagne,
quelque sorte.
Espagne, Catalogne, fait... C'est compliqué, hein,
oui, bon, disons, la Catalogne espagnole.
Alors, on va faire plaisir à nos amis catalans, on va dire Espagne. Bon, je continue. Donc, 4 panneaux. Alors, c'est pas sans rapport à ce que je veux dire, hein. 4 panneaux mis en place par la région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Alors, c'est vrai, bon, les ex-panneaux Languedoc-Roussillon sont obsolètes, hein. Il fallait bien les changer. Mais alors là, elle a fait fort quand même, Madame Delga, quoi, hein. Parce que dans ce sens Espagne-France, hein, on a évidemment le grand panneau classique région Occitanie Pyrénées Méditerranée, et puis dans le sens Espagne-France toujours, hein, pouf, un panneau pays catalan avec en bas le logo de la région Occitanie et le drapeau en fait catalan.
Alors ça, c'est une revendication des catalanistes des Pyrénées-Orientales, si je comprends bien, essentiellement.
Et qui apparemment a été entendue par Madame Delga, qui s'est crue obligée, hein, de rajouter à côté de
donc,
son panneau,
Occitanie,
quoi, hein, Occitanie, non, ouais. Ami, non, Occitanie, région méditerranée, puis un deuxième panneau, pays catalan.
Ouais.
Un pays catalan avec en bas le petit logo de la région pour bien marquer que c'était elle qui l'avait fait, ce panneau, et puis un drapeau, en fait, pays catalan. Alors, quand même, quoi. Ah bon, y a aussi un panneau Pyrénées-Orientales, le département.
Ah oui, quand même, ça existe encore.
Il y a aussi un panneau limitation de vitesse. Bon, celui-là est tout à fait normal. J'ajoute qu'ils sont en train de mettre en place des radars, en fait, sur cette portion d'autoroute, 4 kilomètres. Hein. Celui-là, par contre, attention au radar, je doute fort qu'on l'installe, effectivement, pour le plus grand plaisir, du coup, en fait, des automobilistes.
Oui, il n'y aura pas de ristourne, hein, du genre pays catalan.
Non, hein. Mais imaginons que la mairie de Pertus, en fait, mette aussi son panneau pour signaler qu'effectivement, il y a la ville du Pertus. Et la communauté de communes, en fait, du Val-Espire, en fait, y tout. Donc, je veux dire qu'on en arrive, en fait, à un point, en fait, Jean-Claude, c'est ce que je voulais dire, en fait, dans la foulée de la première chronique.
L'automobiliste ne sait plus où il habite.
Hein. Est-ce que je suis en région Occitanie, en pays catalan, dans le département de Pyrénées-Orientales, en fait, pourquoi pas, en fait, la ville de Pertus demain, en fait, et celle de Val-Espire après-demain. Bref, ce que je veux dire par là, et pour me limiter très rapidement à cette petite chronique, c'est que quand la politique, et là, c'est de la politique, quand la politique se fait manger, cannibaliser par la communication, en fait, Jean-Claude, on arrive à ce degré de ridicule, et je suis poli, hein, en matière, justement, de politique. Donc, voilà, en quelque sorte, et pour résumer ma pensée, le politique et celui qui a pris la décision de faire ça se déshonorent, en fait, en la matière.
Voilà. Et je terminerai par une formule, automobiliste, ne tombez pas dans le panneau.
Très belle formule.
Nous enchaînons avec la salle multimodale. On revient sur, cette fois-ci, une volonté d'explication sur une expression qui est beaucoup utilisée, un marché conception-réalisation, mais dont pas grand monde, à part peut-être les technos comme toi, Michel, et quelques élus, savent vraiment ce que ça veut dire.
Oui, alors donc là, tu me proposes de faire une petite, très petite chronique technique.
Mais oui,
je vais essayer d'être simple.
La presse ne le fait pas suffisamment,
oui,
malheureusement.
Mais, oui, l'espèce, elle n'a pas joué son rôle, quoi. Un rôle d'information et presque d'éducation, l'espèce, quoi, hein, pour ses lecteurs. C'est très simple, malgré la complexité de la formule conception-réalisation. Habituellement, quand une collectivité locale passe un marché, le marché en question se déroule en deux phases. Généralement, en deux phases. Donc, le maître d'ouvrage, qui est la commune, demande, en fait, à ce marché pour étudier son projet. Alors l'étudier, ça veut dire bon, en définir les grands aspects à la fois architecturaux, en fait techniques, enfin bref de l'ingénierie, en fait un marché pour un ensemblier qui va dire voilà ce que l'on peut faire, hein, dans quelles conditions techniques, et pour le projet que vous me demandez de ça, c'est là, voilà la conception, premier marché. Alors ensuite, une fois que ce marché est attribué pour la collectivité locale, eh bien, les lots sont distribués pour et pour chaque lot, un marché est passé. Alors il y a un lot pour la menuiserie, en fait, un lot pour sanitaire.
On commence par le gros œuvre.
Le gros œuvre, etc. Bon, voilà, ça se passe comme ça. Le marché conception de réalisation, lui, c'est un marché qui raccourcit toute cette procédure à l'extrême, puisque, pour aller très très vite, mais c'est la seule manière de bien faire comprendre les choses, on ne passe plus par la phase autonome de conception. On dit, cette réalisation est trop technique, donc il n'y a qu'une entreprise spécialisée dans la réalisation de ce genre de produit, si je puis dire, pour le concevoir, le réaliser, voire le gérer. C'est ça le marché conception. Donc on dit, je mets en concurrence quatre groupements d'entreprises qui associent tout cela, quoi, l'ingénierie, la réalisation, en fait, et la gestion. Et puis je choisis un des quatre qui correspond le mieux, en fait, à mon cahier des charges. Ça se passe comme ça. Donc pas un seul marché. Un seul marché pour un seul groupement.
Ce qui est plus simple pour la mairie, par exemple,
en
l'occurrence.
C'est plus simple et ça va surtout très vite, puisque il n'y a pas toutes ces étapes effectivement à franchir les unes derrière avec toute une série de recours possibles sur chacune des étapes. Donc là, il n'y a forcément qu'un recours possible sur la légalité ou pas de ce marché conception-réalisation.
Voilà. Et c'est là où le bas blesse, tout cas il y a un point d'interrogation.
Et c'est là où il y a effectivement un point d'interrogation sur pourquoi. Parce que ce type de marché est fortement encadré par le droit et par la jurisprudence. Pourquoi ? Parce que si effectivement tout le monde considérait que ces marchés-là devaient être la norme, il n'y aurait plus qu'à. On élimine la procédure classique de marché public, de tout le code des marchés, et puis on ne fait que ça. Parce qu'effectivement, pour les élus, c'est très satisfaisant. Ça va très vite. Là, en l'espèce, pour des marchés de ce type, il faut que ces marchés, plutôt celui qui décide de passer par ce type de marché, fasse la démonstration que les caractéristiques techniques, technologiques du marché sont tellement complexes à définir et à programmer, qu'elles ne peuvent l'être que par la société qui va pouvoir effectivement le réaliser et qui a une expérience économique de ce genre de choses.
Et qu'on est obligé de passer par cette procédure.
Et qu'on est obligé, il n'y a qu'une entreprise Tartampion, je ne donnerai pas de nom, qui peut effectivement à la fois concevoir et réaliser dans la foulée ce type de projet. Donc, et ça, c'est très encadré par le droit. Sauf que là, en l'espèce, c'est pour cette salle multimodale.
Mais alors pourquoi Jem Narbonne et M. Ortiz font-ils un recours?
Mais parce que les conditions de. Les caractéristiques techniques invoquées pour justifier ce type de marché ne vont pas forcément de soi. La preuve étant que dans la jurisprudence administrative, alors là je fais référence à mes anciennes fonctions, je puis dire, il existe une affaire pratiquement de même type, c'était à Nancy, la ville de Nancy voulait réaliser une salle multimodale, elle aussi, en fait, un peu plus grande peut-être que celle de Narbonne, mais bon, passons sur les détails. Et la mairie s'est fait attaquer par des opposants sur justement la légalité de ce marché conception-réalisation, en faisant observer que les conditions techniques invoquées par la mairie qui justifiaient cette procédure n'étaient pas réunies. Dans un premier temps, le tribunal administratif a donné raison à la ville. Les opposants ont fait un recours devant la chambre d'appel, la cour d'appel administrative de Nancy, et la cour d'appel a dit effectivement... Les conditions techniques ne sont pas suffisantes pour justifier qu'on doive passer par ce marché. Et elle a cassé le marché.
Voilà.
Donc il y a en tout cas dans la jurisprudence administrative de ce pays une affaire qui a été réglée et tranchée par une cour administrative d'appel qui pourrait laisser entendre, j'utilise le conditionnel, que le recours de l'opposition de Adil Mouly sur cette affaire n'est pas sans fondement en tout cas historiquement parlant. Juridique.
Voilà. Merci en tout cas pour ces explications. J'espère que nos auditeurs s'y retrouveront beaucoup mieux dorénavant et notamment quand ils entendront parler de cette conception-réalisation. Et nous marquons une deuxième pause après laquelle nous retrouvons notre invité du jour, Henri Martin.